Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Dieu réconcilié le monde avec lui, il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Jésus disait, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches s'il t'écoute. Dans ces paroles, le Seigneur nous interpelle sur une dimension importante du christianisme qu'il a toujours été dans la vie communautaire, c'est la correction fraternelle. Le fait de rappeler à son frère le chemin de la vérité, le chemin du bonheur, la vraie vie. De dire charitablement, et nous allons revenir sur ce mot, charitablement, à son frère, le bon chemin, de l'avertir s'il prend un mauvais chemin. Faire cela implique plusieurs choses, que la parole de Dieu concentre, mais qu'elle n'exprime pas directement, puisque le Seigneur aujourd'hui nous invite fraternellement à la correction fraternelle. Donc chacun d'entre nous pourra dire s'il a véritablement exercé cela ou s'il a fait comme on le dit, il confessera par omission de correction fraternelle, si besoin était. Parce que c'est très à la mode l'omission de la correction fraternelle, parce que c'est très à la mode de penser qu'on est simplement responsable de soi-même, parce que c'est très à la mode d'être individualiste. Et donc, c'est pas très à la mode de prendre conscience, comme nous dit l'Écriture, qu'as-tu fait de ton frère ? De prendre conscience que nos destinées sont liées et que la parole de Dieu, comme elle parle au prophète, forcément nous projette vers une forme de responsabilité charitable à l'encontre de notre frère. Généralement, la culture dans laquelle nous sommes nous a stérilisés dans nos relations, ce qui fait qu'on pense que son petit christianisme personnel ne nous projette pas sur une responsabilité vis-à-vis d'autrui. Or, Jésus, dans sa parole, nous invite à la correction fraternelle, nous fait sortir de nous-mêmes, nous invite à considérer que l'autre est important, et comme le disait la première lecture, nous serons sauvés pour une part si nous avons fait notre job d'avertir notre frère. Libre à notre frère d'accueillir cette parole de miséricorde et de salut. Mais nous avons à le faire. Cela implique donc deux choses. Une conversion sur le fait que la communauté est importante, que notre foi implique l'autre, que nous avons une responsabilité en tant que chrétiens de l'autre, qu'il soit chrétien ou non, et que nous ne pouvons pas être chrétiens sans dire à l'autre la parole de vérité. Ça ne marche pas un christianisme fermé en huis clos pour chacun. La culture contemporaine nous pousserait à cela, et on pourrait même, si on est courageux, aller vers la personne et s'entendre dire de la personne « Mais t'es qui toi pour me dire ça ? De quoi tu te mêles ?» Et pourtant, nous pourrions lui dire « Je crois en toute bonne foi, mon frère, le faire au nom du Seigneur. » Aux yeux du monde, on pourrait dire « C'est un abus. » En réalité, aux yeux de Dieu, nous répondons à la parole. L'enjeu communautaire, le souci de l'autre. Un piège, cependant, c'est le deuxième point qui sous-tend cette parole, c'est qu'il est nécessaire pour nous de le faire dans la charité. Parce qu'il est facile de se faire son petit caporal et son petit chef de tout le monde et de commencer à dire les quatre vérités à chacun. Alors que ça ne vient même pas de Dieu, mais un tel nous déplaît et nous allons exiger de lui une certaine correction fraternelle que le Christ ne ferait même pas. Et pourtant, le Christ nous envoie à cela. Pour cela, il nous demande d'élargir notre cœur, que notre cœur soit plus large. Si tu veux vraiment dire en vérité ce que je te demande de dire, tu dois d'abord aimer en vérité plus que tu n'aimes aujourd'hui. Celui qui est capable d'aller voir son frère au-delà du respect humain, du politiquement correct, capable de dépasser la remarque facile de « mais de quoi tu te mêles ?», de dépasser le « oh, mais je vais peut-être le blesser », le « il sera peut-être plus mon copain, ma copine, si je lui dis ça ». En plus, si c'est mon patron d'entreprise et que je lui dis les quatre vérités, alors là, je mets en danger mon poste. Et pourtant, le Seigneur nous invite tous, à un moment donné, à ce genre de parole. Mais ce genre de parole n'est possible que par un témoin qui vit cette parole. Sinon, c'est pas vrai. Un témoin qui vit cette parole, qui ne se situe pas au-dessus de la parole, mais qui sait que dans sa vie, cette parole l'a libérée, l'a fait grandir, lui a fait du bien. Un témoin qui se sait pécheur, mais qui sait que cette parole est source de vie. Et donc un témoin qui est miséricordieux pour l'autre, parce qu'il voit en l'autre une difficulté, un péché, et qui veut l'aider. Donc un témoin qui prie d'abord pour l'autre, en demandant à l'autre, au Seigneur, donne-moi les mots justes pour lui dire, mais j'ai bien entendu ta parole, je vais essayer. Et ça, c'est de la vraie charité. D'ailleurs, ça fait partie des œuvres de miséricorde spirituelle. Vous pourrez voir ça dans le compendium de l'Église catholique. À la fin, ça s'appelle avertir les pécheurs. Et c'est de la vraie charité. C'est ce qu'exerçait Bernadette. Je suis censé vous le dire. C'est très important. En début d'année, préparons-nous chacun, il y a certainement un nombre de paroles que le Seigneur veut que nous exercions dans ce sens. Encore une fois, ne faisons pas nos petits dictateurs, mais il est tout à fait possible que ce genre de parole est nécessaire. Combien de vies, combien de trajectoires, de vocations avaient besoin et ont encore besoin d'un témoin qui leur dit « Attends, là, tu fais fausse route. Attends, là, tu me dis n'importe quoi, mais tu te plantes. Tu sais, le Seigneur est bon. Si tu allais par là, etc. » Ça, c'est des paroles qui donnent une boussole. Beaucoup, et nous-mêmes, nous en avons besoin. Et le Seigneur, comme un bon père, c'est pour ça que nous le prions dans l'Église aujourd'hui, comme un bon père, dans la liturgie, veut passer par la charité fraternelle, par la correction fraternelle, pour nous guider. Et donc pour ça, ça implique que nous élargissions notre cœur pour être en mesure d'aimer plus au-delà du convenable. Et j'ai un bon moyen, frères et sœurs, de vous proposer à chacun d'entre nous, de nous proposer d'aimer plus. Il s'agit d'adorer plus. Je nous invite, en ce début d'année, à se décider pour prendre un temps d'adoration eucharistique. Depuis 4 ans, l'adoration permanente est sur la paroisse. Notre curé nous disait ce matin qu'il est évident qu'un certain nombre de fruits de conversion et d'apostolat sont directement liés par l'œuvre du Seigneur. Il a besoin de collaborateurs qui parlent en son nom, qui avertissent, qui proposent sa miséricorde. Cette parole du salut qui parfois est une correction fraternelle, sans jugement, mais dans la charité et la vérité. Et pour cela, nous pouvons le faire que si nous aimons plus nos frères, et ça passe par un élargissement du cœur que nous ne pouvons pas fabriquer par nous-mêmes. Nous avons besoin de recevoir l'amour du Christ, et en particulier l'amour du Christ eucharistique, qui est toujours exposé. Ça nous éviterait de tomber dans le jugement quand nous donnons ces paroles. Dans l'Évangile, il est dit encore « Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander. » Dans l'adoration eucharistique, nous sommes généralement seuls pour demander ou pour nous faire élargir le cœur. Et pourtant, nous sommes une chaîne continue qui demande. C'est un acte ecclésial puisque sans cesse on se renouvelle. Un adorateur suit un autre, qui suit un autre, qui suit un autre et qui demande à Dieu. Nous ne sommes pas là simplement pour notre prière, mais pour entrer dans un mystère qui est la prière du Christ, qui irrigue la prière de l'Église. et nous succédons. Ça, c'est un élargissement du cœur. Je me souviendrai, pour revenir à cette correction fraternelle, d'un bon ami séminariste qui depuis s'est marié, parce que ce n'était pas son chemin, mais qui me racontait à cette époque cette belle anecdote pleine de foi et d'audace, et certainement pas de faux respect humain. Il était à une soirée, et il se fait aguicher par un jeune homme qui lui parle politique. Il lui parle politique, il lui parle de son parti, quoi que ce soit, ses convictions. Et mon bon ami l'écoute avec respect, pas du tout hautain. Et à un moment donné, il lui dit, écoute. Alors, l'autre personne avait fini son exposé, et par courtoisie, elle attendait aussi que mon bon ami lui expose ce qu'il avait à dire. Mon bon ami n'a pas fait ça. Il lui a dit, écoute, je me fiche complètement de ce que tu penses en politique. Ce qui m'intéresse, c'est de te faire connaître le Christ. C'est bien plus important. On pourrait dire, mais quel manque de toupet, ça a été dur. Ça a énormément marqué cet homme en face. Ça a été dans l'Esprit Saint. Si ça avait été simplement humain, ça aurait été quelque chose de complètement de dictateur. C'était donné dans l'Esprit Saint, ça a fait son effet. On n'était pas du tout dans le donnant-donnant, on était dans le vrai. Voilà ce qu'il faut demander à Dieu. Comment cette personne a pu avoir ce don-là? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il adorait une heure par jour. Ça avait élargi son cœur, et le Seigneur en avait fait un témoin qui parlait mieux à ses frères, avec une plus grande autorité. Voyez ? Et ça a un effet, ça touche. C'est ça qu'il nous faut demander à Dieu en ce début d'année. Peut-être que nous n'aurons pas l'aspect aussi cash que cette personne, mais nous n'aurons plus non plus l'aspect saupoudré du politiquement correct. Ce sera une phrase forte. Et cette phrase, elle est donnée dans l'esprit, elle est donnée aux contemplatifs, à ceux qui adorent, à ceux qui se font élargir le cœur et qui voient les vrais enjeux. Voilà, fils d'homme. Prenons conscience de cette parole que nous dit encore l'Église. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Amen.